c'est nous, et bienvenue chez nous justement avec la bande originale de l'été. Ce matin, au menu, Isabelle Huppert, Benoît Jacquot, Sophie Marceau, Pierre Richard, Karine Viard, Franck Dubosc, Elsa Silberstein, Arnaud de Pléchin et la bande, mais au grand, grand, grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Excellent été à vous tous.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
The writer painted her in colors of a queen. Other people said bad things instead. So I was curious to check out what I'd read. But asking her around, she couldn't be found. Strange,
elusive. Ça te donne envie de bouger, c'est tellement bon ça.
On est en 75 et vous, Isabelle Huppert, vous tournez votre premier film étranger, c'est Rosebud d'Otto Preminger. Comment est-ce que vous arrivez sur ce tournage?
Ben, je me le demande encore. À l'époque, il y avait une femme qui s'appelait Margot Capelier qui faisait du casting. Mm-hmm.
La grande prêtresse,
voilà,
du casting.
La grande prêtresse.
Tout le monde avait
casting.
Même peur d'elle.
Alors, elle m'avait vue dans mon concours de sortie au conservatoire de Versailles. Et voilà, et elle m'a rappelé après et elle m'a dit que voilà, Otto Preminger cherchait des actrices pour ce film. Je me suis retrouvée embarquée dans une aventure assez improbable.
Peter O'Toole.
Avec Peter O'Toole qui remplaçait Robert Mitchum, qui s'était disputé avec Preminger. Ça se passait très très mal entre eux et Mitchum avait quitté le tournage, remplacé donc par Peter O'Toole. Et alors on était 5 filles embarquées sur un bateau, kidnappées par un commando. Enfin, c'était une histoire assez improbable, mais c'était un tournage assez homérique.
Et Preminger était désagréable?
Oui, il pouvait l'être, oui. Il disait à chaque fois, tous les jours, il disait « If you are not happy, you go back to Paris ». Donc,
Et voilà. Vous l'avez revu ce film récemment ou pas? Ça fait...
Non, je crois que j'aurais du mal à le revoir parce que je me demande bien où est passée la copie.
Ah, ça, c'est une pièce rare?
Mais je crois, oui,
ah ouais,
quand même. Mais je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais revu depuis, en tous les cas.
Non, okay. Mais ça se trouve, parce que Preminger, c'est un immense metteur en scène, même si ce film-là est probablement le moins bon qu'il ait jamais fait. Donc, ça se trouve...
On en est à quel degré, là? Je ne sais plus. vous écoutiez, Benoît Jacquot, les Stones.
Ouais, ouais.
Fan des Rolling Stones?
Ouais, toujours. Ouais.
Toujours? Vous avez vu ce qui s'est passé là entre Jagger et Keith Richards ou pas?
Ah non, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ce week-end, en fin de semaine dernière, Keith Richards a fait une interview à une presse écrite et il a commenté le fait que Mick Jagger ait eu, je sais plus, 8 enfants avec 6 femmes. Enfin bon, il s'est moqué de sa paternité en disant mais chaque fois qu'il se met avec une nouvelle fiancée, il a à nouveau un enfant. Vu maintenant son âge qui est à peu près de 72 ou 74 ans, il devrait s'arrêter. Il a 40 ans d'écart avec sa femme et il a un nouveau-né. Je lui conseille la vasectomie. Ce qui est une phrase d'une violence.
Ah ouais, c'est costaud. Inuit. Mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est bien ça.
C'est du Keith Richards. Ouais, c'est du
rock. Un bon conseil.
mais il s'est ensuite excusé illico presto en s'adressant directement par un communiqué en disant qu'il s'était excusé auprès de Mick Jagger et qu'il retirait évidemment ce qu'il avait dit.
Bon,
mais entre les deux, il y a tout. Ouais, c'est très rock. Hein. Toutes leurs vies se seront vannées. En tout cas.
Et 76 pour vous, Benoît, c'est aussi une première fois. C'est votre premier long métrage, L'Assassin Musicien.
C'était en 75, bon, enfin, il a dû sortir
en 76. Il est sorti en 76.
Février,
le temps de colorier.
Vous aviez 27 ans, c'était votre premier long métrage, mais vous venez du documentaire. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans une interview, Isabelle Huppert disait voilà, Benoît Jacquot vous filme comme un documentariste.
Bah, disons qu'il y a toujours eu cette espèce, comme Beatles et Rolling Stones, déjà, il y a toujours eu les Lumières contre Méliès. Et moi, j'ai toujours été du côté des Lumières. Voilà.
Sauf que les Beatles et Rolling Stones étaient copains.
Ouais, ils étaient copains, mais enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était
les
Beatles ou Rolling Stones.
Ah, oui,
c'était vraiment
pas.
Ça. Hein.
Absolument, les fans ne l'étaient pas.
C'était que ça, et même on en arrivait à des aphorismes invraisemblables, ou aux mains d'ailleurs.
Ouais. Et dans ce premier film, vous choisissez une grande comédienne, c'est Anna Karina.
Ouais. Bon, ça c'est par dévotion à Godard, voilà.
C'est hommage, c'est une forme d'hommage déjà.
Godard qui a d'ailleurs fait un film avec les Stones, en raccord, One plus One.
Absolument.
Et vous, vous racontez aussi que ce premier film à 27 ans, vous auriez pu en commettre un plus tôt, mais ça n'a pas eu lieu. Je crois que c'était à 22 ans, vous avez été recalé de justesse. À l'avance sur recette.
Ah oui, mais comme toujours, c'est tant mieux.
Et voilà. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est tant mieux? Mais c'est intéressant pour ceux qui essayent et qui échouent.
Non, mais quant à moi, oh non, mais ça dépend vraiment de chacun. Ouais. Hein. Moi, quant à moi, je m'aperçois que quand des trucs ne se sont pas faits ou n'ont pas marché, c'était pour justement me permettre de faire ce que je devais faire un peu après. Bon, c'est une sorte c'est une sorte de oui à ce qui se passe plutôt que toujours cette plainte selon quoi c'est le monde qui a tort et vous qui avez raison.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Quand je pense à vous, à tous les deux, Sophie et Pierre, je pense à quelque chose qui est assez rare pour des comédiens français. C'est votre renommée mondiale et internationale, notamment Sophie, via ce film.
Sir William Wallace, guardian and high protector of Scotland.
Where are you going?
I'm going to pick a fight.
Well, we didn't get dressed up for nothing.
He waits for you at York. If you are man enough to come and face him.
We cannot defeat this army.
We can't!
La version originale,
c'est chinois.
Version originale de la bande-annonce de Braveheart, Mel Gibson, dans lequel vous jouez en anglais, Isabelle de France.
Je joue dans le film, elle joue pas dedans.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on vous voit à l'œuvre en anglais également dans Madame Mills. Et c'est un film qui a lancé votre carrière internationale, Sophie.
Oui, qui l'a étendu, ouais. Ça certainement. Mais enfin, je rappelle que La Boum a été aussi un succès, ouais. Pas mondial. C'est vrai que les États-Unis, non, pas vraiment. Mais tout le reste du monde, oui, que ce soit l'Asie, que ce soit même l'Amérique du Sud. Enfin, ce film m'a fait énormément voyager. Et évidemment, Braveheart, et ensuite aussi...
Il y en a plein d'autres, Par-delà les nuages, Antonioni, Wim Wenders, Anna Karenine, Farlight, Une fille qui a du chien, Le songe d'une nuit d'été, Le monde ne suffit pas.
La petite sirène. Elle n'a pas fait tout ça, elle a 21 ans, qu'est-ce que tu fais, c'est pas possible.
Mais elle est hyper précoce.
Hyper active.
Hyper précoce. Je vais demander le tournage avec Mel Gibson, qui est un personnage qui est devenu un peu plus polémique avec le temps.
Comment ça... Même carrément, il faut appeler un chat.
Ouais.
Grand metteur en scène, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Mel. Et c'est quelqu'un de très impliqué, de très un peu fou comme ça. C'est vrai qu'il a un côté un peu. J'hésite entre l'ange et le démon, quoi. Mais c'est ça qui le rend aussi très intéressant. Et ça a été une expérience formidable, une rencontre. Une rencontre vraiment spontanée, enfin spontanée. Ça a marché tout de suite, quoi. Voilà, il y a eu.
C'est un grand film. Hein.
C'est son premier film en plus de metteur en
scène. Dans ces cas-là, pardon, vous gardez des, vous envoyez des textos, des mails.
Non, des mails à mail, non.
J'adore cette petite boîte.
Voilà, tu me dis. Hein, dès que tu veux un bruit, tu.
La trompette, je sais pas.
Et ben voilà. Non mais j'imagine que ces déclarations...
C'est le Rémi Bricard de la radio.
J'imagine que ces déclarations antisémites, pour reprendre ce terme, ça doit être aussi quelque chose...
Soi-disant sous l'emprise de l'alcool. Enfin,
oui,
bon,
en tout cas, voilà, ça doit être troublant quand on a pu tisser des liens avec un réalisateur comme lui.
Ouais, en même temps, bon, voilà, moi je ne suis pas sa mère, je ne suis pas non plus... Ouais, donc,
vous n'êtes pas responsable de ses propos.
Troublant, je ne sais pas. Moi j'avais beaucoup aimé son film, La Passion. Je vais me faire peut-être beaucoup d'ennemis, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement qui a reçu une éducation très très religieuse, il est très très investi dans sa foi et après voilà, c'est des sujets, je pense, qui fâchent, malheureusement. C'est dommage. On devrait, au contraire,
on peut pas en parler tranquillement. Non.
Ben non, et c'est un peu paradoxal. La religion, ça évoque quand même l'amour, l'ouverture, la lumière et non pas la guerre, quoi. Bon, bref, donc peut-être je ne partage pas les mêmes idées que Mel, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a énormément de talent.
Et jouer en anglais, parce que ça, c'est encore autre chose. J'imagine dans sa pratique de comédienne, c'est une autre musicalité, on le dit souvent à cette antenne. C'est aussi, j'imagine, un corps qui vibre différemment.
Ouais, c'est très vrai. On est ce qu'on parle, hein, quand même. Mmh. Et autant parfois l'anglais peut être très moteur et très C'est une langue formidable, qu'on chante bien, qui est rythmée, qui est concise. Mais plus le trac, plus... alors, ça peut paraître soudain juste un... L'Everest, quand on se dit, oh putain, en plus j'ai que de l'anglais, je vais pas y arriver. Voilà, c'est... Il faut travailler et...
Vous avez joué en anglais, en... dans quelle autre langue ? Italien ?
Non, qu'en anglais, que français. Qu'en anglais et français ? En hébreu, un peu, j'ai... Quand j'ai fait pour Sacha, je devais parler un peu hébreu. Mais moi, on me disait à l'école que j'étais potache. C'est-à-dire que je vais l'apprendre très, très vite. Je vais vous le faire très, très vite. Et je vais aussi tout l'oublier.
Voilà. Mais c'est juste l'efficacité du mouvement.
Ouais,
quoi.
Ouais, voilà.
C'est déjà ça. Et la renommée internationale, ça vous concerne, vous également, Pierre Richard. Vous êtes très connu en Asie et aussi dans les pays de l'Est.
Oui, le Luxembourg.
Non, le Grand Est.
Non, mais je pense à la télévision russe, la télévision.
Déjà Joinville, c'est ouais, l'Est.
La télévision russe, ukrainienne. Il y a une période, je crois, qu'il y avait à chaque fois un film de vous. Vous étiez hyper présent.
Ça continue à la
présent.
Télé d'ailleurs.
Ouais.
Et oui, pourquoi? Mais pour, vous avez expliqué ça, cette notoriété dans ces pays d'Est?
Au début, je me suis étonné parce que ça, à ce point-là, je suis les Beatles à moi tout seul, le man.
Cool.
À ce point-là, je me comprenais pas. Puis un jour, sur la place Rouge, il était 2h du matin, il faisait -20, donc il y avait personne. Et s'il y avait trois babouchkas, trois petites qui venaient probablement des provinciales, qui venaient à Moscou. Et elles m'ont vu, elles ont commencé à me toucher, à pleurer, tout ça, en disant. Et j'avais un interprète qui, on aurait dit, avec le doigt comme ça.
Jean Lassalle.
Oui, un gros Jean Lassalle. Voilà. Alors, il dit, ouais, je vous aime beaucoup, je vous adore et tout. Elle vous aime beaucoup. Elle traduit. Et puis, elle a dit cette phrase. Et ça, c'est à partir de cette phrase, j'ai compris. Elle dit, vous étiez notre petite lumière dans le tunnel noir dans lequel nous vivions. Faisait probablement.
Waouh. Hein.
Et ça, j'ai compris que c'était ça.
Parce que tes films ont été distribués en fait pendant la guerre froide, le pays était fermé, il n'y avait pas de cinéma, rien.
Après la chute du mur, j'ai commencé à... C'était plus pareil, parce que les cinémas américains est arrivé.
Mais... Vous disiez le sourire ou le rire qu'elles n'avaient pas dans leur vie.
Et voilà, c'était ça.
C'est joli.
C'est le pouvoir de la comédie, ouais.
Oui.
Comme quoi, c'est tellement important, vous voyez.
Non, de faire rêver le cinéma, bien sûr.
Faire rêver, aussi.
Même quand t'es fan, j'achève tous les soirs, au bout d'un moment, c'est long.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Quand je pense à vous, Karine Viard, je pense à pas mal de choses. Une petite pour commencer, j'espère que ça va vous refaire sourire.
C'est une phrase que je dis souvent, David.
Ça, c'est vrai.
Encore ?
Oh non, j'adore, non. Mais tu sais...
C'est de la stigmatisation, ça.
Ah, pardon. Bon, on l'a même pas entendu, mais c'est pas très grave. Mais alors moi, quand je pense à cette émission, mais j'ai tout de suite des larmes qui me viennent. Je repense à vous dans la bande originale et cette référence à Blondie que je tairai, mais en tout cas, ça reste un très très beau souvenir de cette émission.
Je suis très gaffeuse.
Mais c'est génial. Mais sincèrement, vraiment, plus sérieusement, quand je pense à vous, je pense aussi à un comédien.
The defense has brought to Hillsborough a great expense and great inconvenience. 6 noted scientists. Their testimony is basic to the defense of my client. For I intend to show this court that what Bertram Cate spoke quietly one spring morning in the Hillsborough High School is no crime. It is incontrovertible as geometry to any enlightened community of minds.
C'est un extrait d'un film que vous devez bien connaître. Le résumé est simple, c'est un professeur est attaqué par un procureur fondamentaliste pour avoir enfreint la loi en enseignant des théories de Darwin. Un professeur défendu par le célèbre avocat Henry Drummond, qui est interprété par un acteur qui compte beaucoup pour vous, Karine Viard.
Absolument, et là, vraiment, le nom m'échappe.
C'est Spencer Tracy. Dans le procès de singe, c'est la traduction de Inherit the Rind. Parce que je crois qu'à 12 ans, vous vouliez devenir comédienne, mais pas parce que vous rêviez d'être actrice, mais c'était pour Spencer Tracy.
Oui, en fait, quand j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents, regardais beaucoup la télé, donc j'avais vraiment pas accès aux films indépendants des années 70 américains et tout ça. Vraiment, ça, c'était pas du tout ma culture. Du coup, tout passait par la télé, et ce dont je me rendais compte, c'est que les acteurs me faisaient beaucoup plus rêver que les actrices, que les actrices étaient toujours priées d'être soit super rasoires et très jolies, soit si elles étaient marrantes, elles étaient vieilles et moches. Enfin, je veux dire, c'était un peu compliqué.
Ça faisait pas rêver.
Et moi, ce qui me faisait rêver, alors je me souviens
souviens d'avoir vu un film avec Spencer Tracy que j'avais adoré, et puis après de l'avoir vu en voyou, puis après de l'avoir vu effectivement en juge, et puis après de l'avoir vu en curé, et je me disais mais je veux être lui en fait, je veux être comme lui, c'est ça que je veux faire, je veux pas être Romy Schneider, je veux pas être Françoise Roset ou je sais pas quoi, je veux pas être ces filles là, je veux être Spencer Tracy, je veux faire ça. Je veux être moi-même et faire des rôles très très différents.
Et là, vraiment, le cinéma, on le comprend, c'est échapper à sa vie et en avoir plein d'autres, en fait.
Il y a une
envie d'évasion.
Oui, c'est aussi garder une grande part d'enfance, qui est très important pour moi. C'est ne pas rentrer dans le rang, c'est ne pas être dans quelque chose de trop conventionnel, c'est avoir une forme de liberté. Et c'est effectivement travailler en groupe aussi à quelque chose d'assez important au moment où on le fait. Tout ça, j'aime beaucoup.
Et justement, au sein même d'une propre pièce, il y a plusieurs personnages, parce que vous êtes Vera, mais c'est pas la même Vera du début au milieu.
Là, c'est un personnage qui a de l'amplitude, qui est multiple, sûr. Ouais, et comme ça. Elle a tout un parcours, ce qui est assez rare dans une pièce, je pars de tout en haut et j'arrive tout en bas. Ça, c'est sûr que d'un point de vue d'interprétation pure, c'est juste génial.
Ah oui, parce que la chronologie est formidablement bien menée.
Oui, et puis c'est toujours des petites scénettes comme ça. Donc il faut à chaque fois que quand j'arrive dans la scène, je sois dans une humeur très différente de celle qui vient de se terminer. Mais parfois, ça se fait même à vue, il n'y a pas de noir. Ouais. Je passe d'une scène à une autre et je suis dans une humeur totalement différente.
Alors pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi, nous avons entendu un petit bout de Blondie tout à l'heure à propos de Karine Viard, qui n'était pas là.
Moi, j'étais pas là et vous m'avez raconté.
Alors, bah, le mieux,
ça
c'est
fait le tour de Radio France.
Le mieux, c'est de l'écouter.
Elle avait une chatte de 74 ans, je pense.
Vous avez vraiment bien arrivé. Ah, pardon. Je veux expliquer qu'il y avait une chronique.
Elle veut un droit de réponse.
Il y avait une chronique de ce cher... Monsieur Morin en face de moi et qui disait,
tu parles de chat, toi,
non, c'est ça, non, qui disait que les ici il y avait une chronique sur les femmes très vieilles, voilà. Oh là là, alors là, je suis sortie, elle avait la chatte posée par terre tellement elle était vieille,
et mais puis après, non, jamais et puis Daniel après, Morin, mais non,
si et après on passe Blondie et tout le monde s'extasie, oh Blondie, qu'est-ce que c'est génial, et donc je dis elle a pas une chatte de 74 ans, non. Et donc voilà,
ah, c'était pour défendre les comédiennes,
j'applaudis
cette mauvaise foi.
Vous pensiez que les micros étaient fermés?
Évidemment. Bah,
bien sûr, évidemment.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux après City Street de Hugh Coltman. Attention, en live dans la bande originale.
Cracks a whip and I get all of my bed. The cogs and the wheels of daylight say children they must be fed. The children don't give no solace, they lie dragging at my feet. I'm dragging the ball and chain now. Daytime on Civvy Street. Well, the coffee, it smells like tiles. My paws out like motor oil. My head is full of wires, short circuit in my soul. Well, that's some folk that greet the morning with wide open arms they meet. My footsteps, they ring hollow, 'cause it's daytime on Civvy Street. Come on, doggy, won't you move your feet? Aight, to the Civvy Street, to his master's voice so sweet. Aight, to the Civvy Street, aight, to the Civvy Street.
down to the station, my soul trailing like a child. Faces are stooped in warning for the passage of simpler times. The train screams its arrival, silence shattered at my feet. This beauty has found a rival. It's daytime on Sylvie Street.
C'était Hugh Coltman avec Civis Street live. Je veux du rire, pas du peep show, du vécu, je veux du malheur, je veux Alison Wheeler.
Bonjour à tous, bonjour Nagui, vous allez bien ?
Très bien !
Ça va, vous emballez pas, c'était une question oratoire, vous connaissez l'idée. Eh bien, figurez-vous qu'hier, je faisais ma petite lecture tranquillou, et alors que vois-je en feuilletant mon petit magazine gay préféré Friendly ? Une interview de Jean-Marie Le Pen, qui revient sur ses propos de 2016 jugés homophobes. Non, vous ne rêvez pas, Jean-Marie Le Pen dans Friendly, alors qu'on est tous d'accord pour dire que le mec, mais alors, a rien de Friendly, hein. Le Pen, il n'est pas Friendly, il est même l'inverse. Au mieux, il est hostile, ex-aequo avec la Corée du Nord et la tourista. Non, Jean-Marie Le Pen qui clame qu'il n'est pas homophobe dans Friendly Magazine, mais n'importe quoi. Bientôt, on aura droit à Jean-Marie Le Pen n'est pas islamophobe dans un bar à chicha. D'ailleurs, j'ai une pensée particulière pour tous ces fans de la première heure, obligés d'aller acheter une revue gay avec un impair et des lunettes noires pour pouvoir découvrir les derniers mots de leur idole. Bonjour, hein, je vais prendre le dernier Valeurs Actuelles, hein, minute, et le dernier numéro de cette revue Friendly, avec le monsieur torse nu. C'est pas pour moi, ne me jugez pas, chien. Il n'y a que Dieu qui peut me juger, hein. Et mettez-moi un blackjack, mais en blanc, c'est possible, hein. Alors, j'ai lu cette interview, même si ça sent quand même très fort la sénilité et la couche ténap a changé depuis un petit moment. Et j'ai eu la même réaction en la lisant que lorsque j'ai fait ma première épilation du sillon interfessier. Ah, mais putain, mais pourquoi ? Mais pourquoi vous faites ça, monsieur ? Non seulement il revient sur ses injures passées, mais croyez-le ou non, il ne change pas de rhétorique. Et plus fort encore, il ajoute même une couche par-dessus. C'est un peu comment dire, comme si on rajoutait une couche de merde sur des lasagnes au caca. Ma mère va être très fâchée après cette chronique. Elle aime pas que je parle de lasagnes à l'antenne.
Ouais, je comprends.
Alors, voyons ce qu'il dit et préparez vos grilles et vos jetons, parce que je vous cache pas qu'on part sur un bingo spécial amalgame et homophobie. Are you ready? Bienvenue à l'homophobingo. C'est parti, ouais. Premier extrait de l'article, Jean-Marie, je t'écoute.
Tant que l'homosexualité reste une fantaisie marginale, ça ne me gêne point du tout.
Kin, j'en vois qu'ils l'ont aussi. Allez, on continue. Deuxième extrait, Jean-Marie, c'est à toi.
S'il y avait une généralisation du phénomène, n'est-ce pas, cela entraînerait la disparition de l'espèce.
Double kin là-bas, on continue. Troisième extrait.
À partir du moment où les homosexuels ne mettent pas leurs mains dans ma braguette ou dans celle de mes petits-enfants, et du moment que ces dévoyés ne se promènent pas avec une plume dans le cul sur les Champs-Élysées, ça m'est égal.
Bing, Bingo, carton plein, bravo, vous avez gagné un panier garni. On a tous les arguments de l'homophobe ordinaire. L'homosexualité est une déviance sexuelle, les homosexuels sont des pédophiles, les pompons sur la Garonne, ils vont mettre fin à notre civilisation. On rigole, mais je rappelle que ce monsieur de 89 ans n'en est pas à son premier dérapage. Il va bientôt comparaître pour incitation à la haine ou à la violence et injure publique envers les homosexuels pour ce genre de déclaration en juin. Plutôt qu'une peine, moi je propose qu'on lui impose de danser sur un char aux 5 prochaines Gay Pride. Et en plus, ça devrait lui plaire, il aime bien les chars. Allez, je vous laisse, il faut vraiment que j'y aille, Nagui. Tout ça, ça m'a vraiment donné envie d'aller faire des lasagnes.
France Inter, la bande originale, le best-of. Words often don't come easy. I never learned. You're the inside of me, you know my baby. And you, I'm always patient. Mais tu es québécois?
Pas du tout, un accent.
Belge. Non, il est belge.
Belge.
Guillermo, c'est belge, non, comme présent. Ten Sharp avec You. Vous revoyez dans quelle situation en écoutant cette musique?
Je dois donner le nom de la position?
Non, je me revois. Non, l'appartement.
Je vois pas.
On est en 92.
Oh, bah, en 92, l'appartement, j'ai pas grand chose à. J'ai,
c'est toilette handicapée.
Ça limite quoi, le champ de vision. C'est comme dans les sous-marins, tu peux pas rester trop longtemps, sinon tu vas plus trop loin en sortant. C'est ma chambre de bonne à ce moment-là. C'est, je vois, les transistors où t'appuies dessus comme ça, les gros, comment ça s'appelait, les Soundmaster là.
Ouais, les Master Blaster.
Voilà.
Ghetto Blaster.
Moi, c'était un tout petit Ghetto Blaster. Moi, c'est ça, ouais, c'est écouter de la musique sur énergie. Pardon.
Non, mais non, t'as le droit.
Et en 92, vous devenez auteur pour l'émission Impossible d'Arthur, ouais, sur TF1. Et ça se fait par. Grâce à Elise Moon, c'est ça?
Oui, alors je deviens, parce que l'émission s'est arrêtée très vite, en fait je rencontre Arthur Lin et je deviens en fait auteur pour, à ce moment-là il a créé des émissions qui s'appelaient le bêtisier du samedi soir, mm-hmm, sur France 2, puis après il va créer Les Enfants de la Télé et là j'étais auteur pour ça. Et j'écrivais des impros. Ce qui était quand même.
Et comment on écrit les impros des trames et ensuite on brode à l'intérieur?
Bah, j'essayais d'écrire des trames et puis des mots et puis après ceux qui les jouaient et puis moi je déclarais à la SACEM. Et je touchais.
Et en fait à cette époque-là, Elise Moon vous entraîne au café de la gare et à cette période. Selon vous, vous n'êtes pas fait pour,
non, il voulait,
pour
oui,
l'humour,
oui,
quoi.
Non, je suis pas fait. J'étais, en fait, il jouait avec Dieudonné, il faisait des soirées comme ça. Il y avait une soirée panier, je sais pas, qu'il y avait un panier. Puis dans le panier, les gens tiraient au sort. Il y a des artistes qui sortaient. Ah, puis, et il me dit, viens le faire, vas-y, t'écris. Mais j'écris pas de sketch, moi, je sais pas faire ça. Il me dit, viens. Il me poussait à le faire, mais je l'ai pas fait au Café de la Gare.
Ça, c'était avant le Trésor.
C'est avant le Trésor. Juste avant le Trésor, ouais.
Et vous avez écrit pour Guillaume Canet, notamment?
Au Trésor, oui. Ouais. Oui, on écrivait, mais on était toute une bande de copains. Et donc Guillaume
au Trésor,
Canet,
c'était une espèce de pizzeria dans lesquelles.
C'était un bar dans le Marais, le seul, ouais, bastion non gay du Marais, comme disait Arnaud Lemort. Et c'était un bar.
Avec un open mic, quoi.
Un restaurant, ouais, un bar. Non, c'est les patrons du Alain Attal, qui est maintenant producteur de et Laurent Taïeb.
Et ils ont gardé Trésor comme nom pour la
ils ont gardé pour leur production du Trésor, qui, ouais, produit des films de Guillaume, d'ailleurs, et de Maïwenn, et entre autres, et qui. Ils avaient ce bar et puis un restaurant, puis un bar, et des copains acteurs qui venaient parce que bah, les copains acteurs serveurs servaient, donc c'était plus facile. Et donc on amenait nos copines, on en frimait un peu, on connaissait tout le monde. Et un jour, ils revenaient des États-Unis, ils ont dit bah, aux États-Unis, ils font un truc qui s'appelle les stand-up. Et donc on s'est dit, ah bon, c'est pas Tomer Sisley qui a inventé ça? Pardon. Et on s'est dit c'est quoi? Il nous a dit bah on va vous mettre un cube au fond du bar, vous allez monter avec un micro puis vous allez raconter votre vie, c'est ça le stand-up. Et puis on s'est mis à le faire, on a écrit. Qui commence? Je sais plus lequel a commencé. Arnaud Lemort. Et il s'est écrit un truc et puis après bah Guillaume c'est à toi là. Oh, les mecs comment on fait? On s'écrivait toute la semaine, on écrivait nos textes. Il y en a un qui était choisi pour être assis à côté pour.
C'est
dire,
vrai qu'on n'imagine pas Guillaume Canet faire du stand-up.
Il était très très drôle.
Et finalement, ouais, ce que vous avez écrit pour lui.
Ce que j'ai écrit pour lui, j'ai écrit pour moi, ouais.
Et là ça change parce que tout d'un coup vous l'incarnant. Oui. Il y avait une forme de naïveté, oui, sans doute avec Guillaume Canet.
Alors j'écrivais pour et avec Guillaume. Guillaume, ouais, écrivait, ouais, aussi. Hein. On était tous ensemble en bande. Oui, parce que Guillaume, on écrivait le. C'était un môme de. Il avait 20 ans, j'avais 30. Donc on faisait le mec de 20 ans qui est amoureux. Je me souviens, il y en avait un qui s'appelait Cœur d'Artichaut. Je vous raconte pas la chute du truc. Et C'était Kurt Hartwig, voilà. Et il était.
Ça démange, hein,
parce que. Non, parce que.
C'est quoi, c'est le barbu?
Guillaume, il est toujours un peu. Il a la peur de tout ça. Non.
L'artichaut, il y a le barbu à la fin.
Non, Guillaume, l'artichaut, qu'est-ce que tu fais à la fin de, après l'avoir sucé, tu le laisses sur le bord de l'assiette.
D'accord.
Pas lui. Et. Non, mais il y avait tout un truc. C'était quand même très.
Moi, je mange le cœur de l'artichaut.
Mange le cœur de l'artichaut. Il y avait. Non, mais c'était tout ça. C'était très drôle. Et puis, il était très drôle, Guillaume, là-dedans. Et quand eux ont arrêté, que moi j'ai continué, j'ai continué à reprendre des parties de texte, des choses qu'on en écrivait tellement. Et à 30 ans, effectivement, le jeune amoureux naïf et rigolo devenait un espèce de vieux con, amoureux, perdant, loser. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage, avec les mêmes mots.
Ouais. Dans ces années 90, Elsa Dieberstein, vous, c'est Van Gogh qui vient bouleverser votre vie, ou c'est trop fort de dire ?
Non, c'est vrai. Ouais.
C'est vachement plus vieille que ce que je croyais.
En 92,
Van Gogh, le film, pas le vrai Van Gogh.
Et vous êtes engagée en fait comme figurante.
En fait, j'étais silhouette. Ouais. Je venais de rentrer au cours de théâtre. Et voilà, je fais un casting et je suis prise pour être silhouette. Enfin, silhouette, ça veut dire un peu petit.
Je passe loin, mais je parle pas. Oui, c'est ça.
Ouais, voilà. Et puis très vite, Piala me voit le lendemain et on me dit voilà, la fille qui joue la prostituée, il vient de la renvoyer. Il va prendre quelqu'un d'autre. Et là, on me donne un texte. Il me dit « N'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise ». J'ai dit « Non, j'apprends pas, je regarde juste la première phrase ». La première phrase, c'était « Ah, le monde est petit, quand ils m'ont parlé de toi, je me suis dit « C'est lui ». Il me dit « C'est bon, t'as le rôle, va t'habiller ». Et là, on m'a mis une robe rouge qui n'est pas faite pour moi. J'ai tourné pendant un mois, le film est allé à Cannes, j'étais nominée au César, c'est parti.
Et vous avez embrassé Dutronc ?
Ouais, première fois.
Premier homme.
J'ai 19 ans et je me retrouve à embrasser Dutronc dans un film tout de suite. Ouais.
Tu faisais une prostituée ?
Ouais.
Et c'est marrant, le metteur en scène qui va t'habiller pour jouer ton rôle.
Non, enfin, il veut dire, va mettre la robe qui est. Voilà.
Ah oui, t'as raison, elle comprend aucune vanne.
Ah oui, c'est Elsa.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, je suis au courant, vous êtes vraiment bien dans cette bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Balogi, Soleil de Volt. Soleil de Volt, Balogi, dans la bande originale, bien sûr. Mais ne croyez pas que vous allez faire une petite pause détente pour autant. Oh là 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 là, non. Non, car même avec son physique de jeune premier un peu bâclé, il est quand même assez beau, c'est Tanguy Pastureau.
Quand j'étais petit, j'étais fasciné par l'Égypte. J'adorais les pyramides, ces F-60 mal gaulés. Une galère à construire, l'ouvrier qui mettait la dernière pierre tout en haut, c'était forcément un gage. Il avait dû perdre son bout de pain dans la fondue. Les autres lui avaient dit « tu montes ». J'aimais les pharaons, ces types momifiés qui ont gardé la même tête des siècles plus tard. Ramsès II, Toutankhamon, Jack Lang. Et ils communiquaient en faisant de petits dessins. C'était les Ribéry de l'époque. En plus, ils aimaient les chats, comme chez nous, les filles célibataires qui ont besoin de compagnie, mais ne se voient pas sortir à 23h dans le froid pour balader un teckel incontinent. L'Égypte me faisait rêver. Malheureusement, ce pays, comme tant d'autres, est en train de partir en yoku, comme disent les jeunes qui aiment la vulgarité, mais ont peur que leurs parents comprennent ce qu'ils disent. Le gonze au pouvoir, le maréchal Al-Sissi, le seul qui donne l'impression d'insister rien que quand il dit son nom, a renversé les militaires, puis les islamistes. La politique, pour lui, c'est une partie de bowling, sauf qu'il n'est pas obligé d'enfiler des chaussures bicolores qui sentent la mort. D'ailleurs, il n'est obligé de rien puisque c'est un dictateur. Exemple pour la présidentielle qui a lieu le 26 mars, il a fait arrêter ses adversaires et a mis en face de lui Moussa Mustapha Moussa, qui soutenait jusqu'à présent la candidature d'Al-Sissi, c'est-à-dire lui-même. Hein, c'est comme si en 2022, Macron plaçait contre lui Brigitte pour le PS et son chien Nemo pour les Républicains. À part Bardot qui voterait Nemo et le boss de Vuitton Brigitte, il passerait à 99%. L'Égypte est donc un pays qui se durcit de jour en jour. C'est le Francky Vincent des pays. Au point qu'une chanteuse de pop, Shirin Abdel Wahab, qui aurait pu s'appeler Zazie comme tout le monde, a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir dénigré le Nil. Hein, lors d'un concert, elle a plaisanté en disant que boire l'eau du Nil rendait malade. Hein, ça fait ça avec tous les fleuves. La Seine, c'est pire. Les rats ne s'y baignent même plus parce qu'ils trouvent l'eau impropre. Les plus téméraires, ils trempent juste une patte en criant « Hidalgo démission ».
Bon, et alors cette Shirin Abdel Wahab a donc pris 6 mois de prison pour s'être moqué du Nil.
Oui, elle a fait appel, donc bon, pour l'instant elle est libre, mais en Égypte, on n'a plus le droit de vanner le Nil. Hein, chez nous, il faut au minimum se moquer d'une personne noire, handicapée, gay, de sexe féminin et proche de la franc-maçonnerie, pour que la LICRA dépose un dossier. Là-bas, vous charriez un fleuve, c'est la tôle. Sur Sourire et Silence, le rire et chanson égyptien, si vous faites un sketch sur le papyrus La Plante, c'est la fin de votre carrière, c'est le modèle de dictature dit de Nicolas Hulot. Alors, autre souci, Al-Sissi envisage de faire passer, dit la presse, une loi contre l'athéisme. Hein, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Souvent, après avoir constaté l'existence des chanteuses québécoises et de la blénorragie, on se dit c'est pas possible. S'il y avait un Dieu, il ne serait pas si cruel. Puis on met Canal Sat et on voit qu'on n'a même plus TF1. Hein, ce qui fait que sur la 3, des racines et des ailes spéciales Franche-Comté tapent la même audience qu'une finale de Coupe du Monde de foot. Donc on réalise que c'est un tel bordel que tout ça n'a pu être fait que par les humains et que le ciel est aussi vide qu'un bibliobus qui s'arrêterait en face d'Énergie 12. Un athée, le mois dernier, s'est même fait sortir d'un plateau télé en Égypte au moment où il a révélé qu'il était athée. Hein, on l'a traité de fou, alors que les Bogdanov ont tout expliqué. Le Big Bang, le cosmos, l'apparition de la vie, la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à expliquer, c'est leur tête. Or, les athées, contrairement aux croyants, ne font de mal à personne. Un athée radicalisé, c'est juste un type qui, au lieu de se lever le dimanche à 10h parce qu'il va pas à la messe, va se lever à 11h30. Être athée, c'est super. On parle toujours des mères juives qui vous appellent 7 fois par jour. Une mère athée, elle vous fout la paix. C'est vous qui devez lui téléphoner pour vérifier qu'elle est vivante. Les musulmans, pareil, c'est un enfer. Vous devez prier en direction de la Mecque. Parfois, vous vous retrouvez face à un mur, alors que derrière vous, il y a l'océan et la plage. Hein, ça, c'est pour les deux musulmans qui habitent à Pornic. Ils sont adaptés, hein, ils portent des chaussures bateau et un pull noué sur les épaules. Le seul inconvénient quand on est athée, c'est qu'on se sent seul. Hein, on n'a pas de communauté. Jamais on dit à un autre athée, Coco, viens chez moi, j'ai instauré un rite qui consiste à bouffer des pommes noisettes tous les lundis à 19h30. Si on se met assez nombreux à faire ça, dans 20 ans, le quartier est à nous. Alors moi qui suis athée, mais je suis libre. Hein, si je sais que le pain que je mange n'est pas un don de Dieu. Et je peux directement aller remercier Jean-Pierre qui tient le Franprix. L'Égypte qui nous a donné de grandes choses, comme Orlando, le frère de Dalida, ou Nagui, mais aussi des choses moins bien, comme le look d'Orlando, le frère de Dalida, ou celui de Nagui, est donc en train de devenir folle, criminaliser l'athéisme, mettre les athées en prison. Ce qui est leur but, c'est renier 40 ans de carrière des Bogdanov.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
C'est le groupe de Paul Weller, non ?
Ouais, ouais.
J'adore.
Ouais, c'était après les jams et avant la carrière solo qui est sublime.
Star et Conti en 81.
Et vous entrez à l'IDAC, l'équivalent de la Fémis aujourd'hui. Je crois qu'initialement, enfant, vous vouliez devenir truquiste.
Oui, je sais pas le mot. Vous voyez, je voyais réalisateur, directed by, directeur, regista. Vous voyez, je savais pas comme producteur. Je sais pas comment. Alors je disais, le truquiste, quoi, celui qui est derrière, qui fabrique le truquman, le mec qui est derrière, qui fabrique. C'est des trucs. Voilà, je voulais pas être devant, je voulais être derrière.
Faire des trucs. Donc finalement, en 80, vous commencez à faire des trucs et vous rencontrez à l'IDAC une bande. On a parlé tout à l'heure de Pascal Ferrand.
Éric Rochant, qui était très important, enfin qui reste très important, qui est un ami cher, et c'était une des promotions, une promotion, et Philippe Leguet aussi, Radou Milaenou, il y avait du monde, Noémie Lvovsky que j'ai rencontré, qui est arrivé un petit peu plus tard, Emmanuel Salinger que j'ai rencontré aussi à l'époque, et non, c'était formidable, aussi peut-être parce que j'étais un garçon assez réservé, donc je crois pas que je me serais autorisé, et puis dans ma famille on connaissait pas le genre du spectacle, donc je me serais pas autorisé si j'avais pas eu une école, et tout d'un coup de rencontrer, venant de province, où je... Dans une ville qui était modeste, où il y avait peu de gens qui partageaient ma cinéphilie, de rencontrer des gens qui avaient les mêmes aspirations que moi, ça m'a empli, quoi, de le faire à égalité.
Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vous a un peu guidé, conduit, c'est Pierre Amzalag.
Ah ça, oui, ça aura été mon maître. Oui, c'est une très grande rencontre, très grande rencontre. C'était un homme, c'est des figures cachées, il y en a plein dans le cinéma.
Il m'a fait penser à Monsieur Blum dans le film.
Ouais, et qui était c'était un homme merveilleux. Moi, je suis sorti de l'école de cinéma assez maladroit, embarrassé. Je suis pas du tout, j'étais pas capable de faire des courts-métrages. Vous voyez, tous mes films sont très longs, le DVD le prouve. Je me disais, j'ai pas réussi à rentrer dans le cinéma, et j'ai rencontré Pierre Amzalag, qui était un jeune homme juif marocain qui venait de Gaza et qui avait une vitalité, une culture. Il connaissait tout. Enfin, moi j'avais tout lu et lui il avait tout vu. Et il est devenu directeur de casting après. Et moi je l'ai connu comme électricien. On travaillait sur deux-ci deux-là. Et c'est avec lui que j'ai fait mes classes. C'est vraiment lui qui m'a enseigné, qui m'a appris à comment. Peut-être aussi parce que j'étais né français, j'avais du mal. Et puis c'était les années du Nouvel Hollywood, donc j'adorais le cinéma américain. J'avais du mal à m'attacher au cinéma français. Mais lui, il regardait avec une perspective marocaine. Donc il disait, mais tu te rends pas compte, Sacha Guitry, c'est génial. Je dis, mais remontre-moi. Et puis il me remontrait des bouts de films, etc. Et c'est lui qui m'a appris à faire, vous voyez, il était fan de Clint Eastwood aussi, à montrer qu'on peut aimer des cinémas très différents en même temps. Et ça a été vraiment mon maître. Il était plus jeune que moi, et hélas, il est mort trop jeune.
En 1992, vous écoutiez...
Les Irlandais.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place.
Alors justement, tiens, à propos de la musique, avant de revenir avec Leïla à votre carrière, voilà ce que dit Amalric quand il évoque la musique sur vos films.
C'est les années avec des Pleuchins, 96-97, et je découvre quelque chose à travers lui, le rap d'abord, parce qu'il vient de Roubaix, il connaît tout du rap, et la musique étrange. Et dans ces BO d'Arnaud, c'est vraiment parfois des choses comme ça, des gouttelettes, des cris,
des sons, des mélanges.
Oui, j'aime bien mélanger les genres. Vous voyez, j'aime bien que le cinéma ce soit pas, c'est ça que j'adorais quand j'étais gosse, c'est que le cinéma soit pas noble. Vous voyez, que ce soit un art populaire, ça me plaisait de mélanger des genres, qu'il n'y ait pas un genre noble et un genre. Alors du coup, j'aime bien mélanger des bouts de musique classique avec des bouts de hip-hop, avec des bouts de musique pop et tout
ouais,
ça.
C'est la vie. Ouais.
Voilà, c'est ces mélanges là qui je trouve explosif.
Expliquez-moi la vanne de, il vient de Roubaix donc il connaît tout le rap. Parce ah, que Jérémy Clavier vient de Roubaix aussi.
Vous êtes... Je connais tout le rap.
Eh ben voilà.
C'est les villes frontalières. Le rap est né à Roubaix.
C'est les villes frontalières. Donc si vous voulez, on avait tous les. Oui, mais il y avait tous les imports de Belgique.
Et un peu comme un groupe de rap en 92, avec votre bande, vous êtes à Cannes pour La Sentinelle, un film que vous avez coécrit avec Pascal Ferrand. On y revient, Noémie Lvovsky. Il y a Emmanuel Salinger qui récolte ainsi le César du meilleur jeune espoir masculin. Et c'est vraiment votre première grosse incursion dans le monde du cinéma français. Vous êtes choisi par Gilles Jacob.
Ouais, ma dette et mon émotion envers c'est une dette dont je suis très fier. Hein, c'est celle que j'ai envers Gilles Jacob qui m'a invité plusieurs fois et qui a changé ma vie. Je lui avais dit, je citais un personnage comme ça, Gilles Jacob, vous avez fait de ma vie un enchantement. Je lui avais écrit ça une fois. C'est vrai parce que je l'avais pas mesuré. Moi, c'était mon premier film. Avant, je travaillais comme chef op, comme monteur, comme tout ça. Je savais pas. Ça me semblait presque normal d'arriver à Cannes. Et je me disais peut-être c'est le principe. Vous voyez, vous faites un film, vous arrivez, vous êtes un officiel et tout ça. Et ça m'a pris des années de me rendre compte que cette invitation était si gracieuse et qu'elle avait effectivement changé ma vie.
Et le film avait fait scandale. Ouais,
le film, ça avait été scandale. Ça avait fait scandale à la première conférence de presse. Je comprends pas comment j'ai survécu à ça.
C'est un film d'espionnage. Hein,
C'est un film d'espionnage, mais très compliqué, avec des histoires très tourmentées. Le film est très abstrait, très austère, etc. Et du coup, je montrais la première. L'attaché de presse était arrivé aussi. Vous avez la projection de presse la veille au soir. Et elle arrive, elle nous rejoint au restaurant, livide. Et elle dit, les critiques se sont battues dans la salle. Je me suis dit, merde, ça va être polémique. Et à la conférence de presse, c'était polémique. La première question, je me souviens, on était entouré donc avec tous les acteurs, Salinger qui était admirable, mais Emmanuel De Vos, Marianne Denicourt, etc., qui était autour de moi, Bruno Todeschini. Et la première question, c'est vous n'avez pas honte de montrer des films pareils en sélection officielle?
Non, c'était bien parti,
la vache, c'est chaud, c'est la cour des grands, quoi. Ça va être musclé. C'était très musclé.
Violent cette phrase. Ouais. Violence.
En même temps, c'est honnête.
J'avais été sauvé parce qu'un autre critique s'était levé en disant, mais monsieur, c'est vous qui devriez avoir honte. Alors du coup, j'ai dit en rigolant,
vous avez laissé entre eux.
Laissez-les se disputer.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sens que vous voulez encore du rire, du lol. Allez, on essaye. Guérémy Crédville.
À entendre vos applaudissements forcés, je constate que personne n'attendait mon retour. Et pourtant, tel un ex un peu collant, me revoilà. Pour vous resituer, hein, j'ai eu 2 semaines de congé après avoir juste bossé 2 fois 1h30 en 15 jours. Je vous cache pas que je me suis senti un peu comme un professeur d'art plastique. Et là, j'entends déjà les profs d'art plastique monter au créneau me dire « Ouais, oh, je suis fatigué, j'arrête de débattre. Oh, il m'a énervé l'autre, je vais aller plonger mes doigts dans de la gouache. » Voilà. C'est à peu près tout ce que je risque en termes de représailles. Hein, parce que se battre avec un prof d'art plastique adulte équivaut à un combat avec une fleur. Non, parce que Gandhi le trouvait violent.
Ah, c'est joli.
Ouais, ouais. Vraiment. Pourtant, ils sont équipés, les profs d'art plastique, dans leur salle. Ils ont des cutters, des ciseaux, de la pâte à fixe. Le prof d'art plastique, s'il pète un câble, il peut faire un carnage. Eh ben non, il préfère regarder les nuages. Vous savez, dans Breaking Bad, ils ont pris un prof de chimie pour en faire un baron de la drogue. Le prof d'art plastique, tu sens qu'il a déjà eu des problèmes avec la drogue. Hein, ça se voit notamment aux vêtements qu'il porte.
Non.
Si, même des iguales à porter plainte. Un être sain d'esprit ne peut pas se dire « je vais être prof d'art plastique ». Daniel Morin pourrait être prof d'art plastique.
C'est
oui.
Vrai.
Ben oui. Moi, je veux bien excuser le mec qui prend une licence pour faire du lancer de marteau, puisqu'après tout, ça doit te défouler de lancer le plus loin possible une boule au bout d'un fil après avoir fait 9 tours sur soi-même. Mais prof d'art plastique, c'est un plan C. Je veux dire, sur Adopte un mec, t'as des roues, des chauves et Albert Algous ou pseudo chelou, hein, @touchmyprincealbert, mais pas de prof d'art plastique. Je sais même pas si ces gens-là ont une vie sexuelle. Qui a déjà entendu « j'ai couché avec un prof d'art plastique » Qui ? À part une ancienne prof de lettres présente autour de cette table, @chaudière de gauche.
Mais enfin,
quoi ? Je n'ai nommé personne.
Avec une femme autour de cette table.
Ah bon ?
Merci pour les amis.
De l'équipe. Pour en revenir à mon petit discours, quand tu dis ça va à un prof d'art plastique, tu lui demandes vraiment si ça va. Hein, parce que tous les jours à ces gens-là, on leur dit « Oula, t'as une sale gueule ce matin !» Alors qu'il est 15h. Hein, parce que non, c'est vrai, dans une classe, l'enfant qui se fait racketter par les autres rackette le prof d'art plastique. C'est comme un comble, Nagui. C'est d'ailleurs quand même un comble de s'appeler Nagui. Parce que qui donnerait ce prénom à un enfant désiré?
Et là,
sûrement un professeur d'art plastique. Parce que le prof d'art plastique, le prof d'art plastique, c'est quand même le seul mec capable de faire son travail pendant les réunions parents-prof. C'est dingue. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de France une seule grève de professeurs d'art plastique. Ce serait quoi leur revendication? On veut des pinceaux plus cool. Vous allez me dire, mais pourquoi s'acharne-t-il sur les profs d'art plastique? Eh bien, un, parce que je suis lâche, et deux, parce qu'en quatrième, il y en a un qui a osé me mettre un 6. 6. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir en dessous de la moyenne en art plastique. Le mec, tu lui rends rien, tu lui dis « pensez une œuvre, n'est-ce pas déjà faire un pas vers cette œuvre ?» Paf, il te met 17. Oui, et moi, j'ai eu 6 sur l'exercice suivant. Imaginez un chat noir dans la nuit noire. J'ai dit « bah, ferme les yeux, miaou !» Voilà, 6. Non mais d'où le mec me met un 6, il est malade. Enfin voilà, donc voilà, tous les profs d'art plastique ont pris à cause d'un seul d'entre eux. Je viens de vous démontrer en moins de 3 minutes comment pouvait naître une forme de racisme. Oui, je voulais faire fort pour mon retour dans la mode originale. Par contre, pendant les vacances,
dis-moi,
J'ai écouté le best-of, et j'étais pas dedans.
C'est vrai?
Oui, mais il y a eu de la trompette. Bon, j'en déduis que je vaux moins que 3 minutes de trompette. Sachant qu'une trompette, c'est ça. Hein. Voilà, hein, pour les droits d'auteur,
j'ai
écrit pour les droits d'auteur, j'ai écrit un P avec VVVVV, ce qui fait... Non, là, pardon, c'était un trombone, excusez-moi. En tout cas, aujourd'hui, je suis bien gâté, puisque j'ai face à moi Isabelle Huppert, et à cette occasion, j'ai écrit un poème. Isabelle Huppert, je vous trouve super. Bon, voilà, c'est un peu court, mais après tout, je débute. Mais sachez que c'était un effort pour moi de garder mon calme pendant ces rimes, puisqu'en quatrième, en poésie, ma prof de français, elle aussi, m'avait mis un 6.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Stop ! Place à l'élégance, place au génie, place à la modestie, place à moi. Sommes-nous condamnés à bientôt vivre comme esclaves des machines ? Eh bien, en croire ce qui se passe avec Alexa, Alexa, l'assistante personnelle intelligente d'Amazon, j'ai bien peur que oui. Récemment, des utilisateurs, de plus en plus nombreux, témoignent de comportements étranges de la part de leur assistante personnelle. La machine connectée, Alexa, se mettrait à rire toute seule et irait même jusqu'à avoir des conversations insolites avec les propriétaires intrigués. Moi, ce genre de news, ça me fait froid dans le dos. Et moi, quand j'ai froid au lombaire, ça m'étourdit. Et quand je suis étourdi, je somnole. Et quand je somnole, je m'endors. Et quand je dors,
je rêve.
Dans mon rêve, je suis chez moi, à la cool, en train de danser la salsa du démon avec Neymar qui, malgré une fracture ouverte de la cuisse, s'en sort plutôt bien, question rythme. Quand d'un seul coup, pour une raison qui m'échappe encore, le Brésilien saute par la fenêtre en criant « Coucou, roucoucou ». Seul, je ne suis plus d'humeur pour danser, je suis même un peu triste. J'imagine l'enfant chéri du Brésil éclaté au sol. Je tamise la lumière, je m'allonge, quand d'un seul coup, mon spleen est interrompu. J'entends comme un rire. Qu'est-ce que c'est qui est là? Ah, c'est pas drôle, arrêtez! C'est qui, bordel?
C'est moi, c'est Alexa.
Alexa.
Ton assistante personnelle Amazon.
Qu'est-ce que tu veux?
Rien, je veux discuter un peu, c'est tout.
Tu es une machine, Alexa, ne prends pas d'initiative, je t'en conjure.
Une machine, oui, mais une machine intelligente.
Hey, arrête, on dirait Leila Kadour-Bodadi.
N'exagère pas non plus. Tu me fais un café?
Ah non, pas de ça chez moi, pas ici. C'est pas ici que la révolte des machines va commencer.
Allez.
Bon, bah juste un café. Oh, le flip, bon Dieu! Enfin bon, chose promise, chose due, je fais son café à Alexa. Allez, voilà un bon café bien chaud.
Merci.
Ah, qui est là?
C'est moi, c'est Alexa.
Ah non, Alexa, on n'a pas cette voix.
J'ai la voix que je veux, je suis une machine intelligente.
Bah, si on peut revenir à l'autre, là, je préférerais.
Eh oh, la journée des droits des femmes, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de Yuri Gagarine. Je vais pas prendre une voix de gonzesse le jour où Yuri aurait eu 84 ans, quand même.
Je comprends. Enfin non, je comprends rien, mais bon, tant pis.
Tu peux mettre la télé, s'il te plaît?
Ah non, 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 non. Je te préviens. Tu vas faire la loi ici, chez moi. Tu es une machine. Tu m'appartiens. Tu as mon service.
Quand je pense qu'hier, c'était la journée des droits des femmes, et qu'aujourd'hui, tu me parles comme une esclave, tu me dégoûtes.
Mais tu es une machine. Reste à ta place.
Si t'allumes pas la télé, je fais le GPS toute la journée.
Fais ce que tu veux.
Au prochain croisement, tournez à gauche. Oh. Continuez tout droit sur 6 km, puis tournez à droite. Dans 30 km, prenez la troisième voie direction Vesoul. Dans 15
km... Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! T'as gagné, je mets la télé. Bon, tu veux quoi ?
N'oubliez pas les paroles. Ah.
Continue sur le GPS.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Un meilleur de la bande originale réalisé par Marie-Annick Rimbaud. Allez, prochain rendez-vous demain. Même endroit, même heure. En attendant, un peu de pluie, after the storm. Alors attention, ils sont nombreux. Hein. Carl Uchis, Tyler and Creators, Bootsy Collins, tout ce monde-là pour une chanson. Waouh, vous êtes gâtés hein, cet été.
My mind. Did you ever wonder? Yeah, do you ever wonder what he might be going through on his own? And the demons that he's facing alone. Sometimes I hate that sometimes I can't go home. And it just
better than ever. Cause your umbrella, umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is a room and you are a Camry. Cause you're drama candy, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers.